réplique « Faut-il avoir peur de l'Afrique ?» avec Serge Mikhaïlov et Stephen Smith. Serge Mikhaïlov, chercheur à l'IRIS, a été l'un des directeurs de la Banque mondiale et le directeur des opérations de l'Agence française de développement. Il a publié en 2015 aux éditions Fayard « Africanistan, l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?» Stephen Smith, qui a été journaliste à Libération puis au Monde, enseigne aujourd'hui les études africaines à l'université de Duke aux États-Unis et il vient de faire paraître chez Grasset « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique, en route pour le vieux continent ». Avant de parler de l'exode massif qui se prépare ou qui se profile et de la nécessité ou non d'y remédier, je voudrais que nous en analysions les causes. Si tant d'Africains quittent et quitteront en plus grand nombre encore leur continent, c'est que les promesses de l'indépendance n'ont pas été tenues. Pourquoi ? Que s'est-il passé, Stephen Smith ?
C'est vrai que les promesses n'ont pas été tenues. Kuruma a parlé du soleil noir des indépendances. Mais au cours du travail sur ce livre, je me suis rendu compte que quand bien même on aurait sagement administré, gouverné l'Afrique, on aurait pris toutes les décisions rationnelles, le pari n'était pas tenable, puisque ce qu'Alfred Sauvy avait appelé les investissements démographiques, on ne pouvait pas les faire avec les ressources de l'Afrique. On ne pouvait pas construire toutes les routes, les hôpitaux, les écoles pour une population qui grandissait dans des proportions sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Quand on regarde qu'en 1930, quand en gros la mise en valeur, comme on disait à l'époque, le développement a commencé en Afrique subsaharienne, la population était environ de 150 millions d'habitants. Elle sera en 2050 de 2,5 milliards, elle est aujourd'hui de 1,3 milliard, donc une multiplication par 17. Vous regardez la population française, si elle avait cru dans les mêmes proportions, il y aurait en 2050 700 millions de Français, c'est-à-dire une grande moitié de la Chine. Vous ne pouvez pas, quand bien même il n'y aura pas eu de corruption de gabegie, vous ne pouviez pas tenir ce pari. Et c'est ça, c'est pas une exonération de l'échec des indépendances en Afrique, mais c'est une mise en perspective de la géographie humaine. On voit sur ce tableau-là que l'Afrique, tant qu'elle ne maîtrise pas sa démographie, peut faire des progrès, et elle en a fait beaucoup de progrès, d'où tout le discours sur l'afro-optimisme et son pendant, l'afro-pessimisme. Tous ces progrès ont été noyés dans une masse humaine. Vous pouvez électrifier l'Afrique, ce qui a été fait, mais vous passez au cours d'un demi-siècle de 20% à 33% d'électrification, alors que si la progression de la population n'avait pas été aussi fulgurante, vous auriez peut-être électrifié toute l'Afrique.
Oui, d'ailleurs, Serge Mikhaïlov, vous donnez vous-même des chiffres qui font frémir à propos du Niger. Vous dites que lors de son indépendance, le Niger comptait environ 3 millions d'habitants. Lorsque vous y avez travaillé au cours des années 80, 7 à 8 millions. Ce pays compte aujourd'hui plus de 19 millions d'habitants et il est désormais assuré, quelles que soient les évolutions attendues du taux de croissance et les efforts engagés dans le domaine du planning familial, que sa population sera supérieure à 40 millions en 2035. Et on ne voit pas en effet quelle politique pourrait répondre à cette poussée démographique.
Alors le Niger est un cas, je dirais presque limite, mais il illustre assez clairement ce qui se passe dans l'ensemble du Sahel. Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment du Sahel, des problèmes d'insécurité, etc. Eh bien, finalement, les problèmes démographiques sont largement au cœur de ces difficultés. Alors, vous parliez tout à l'heure, des causes, et du fait que les espoirs que nous avions mis dans les indépendances africaines n'ont pas été tenus. Mais en fait, le problème démographique n'était pas posé à cette époque-là. Il n'était pas perçu. Au contraire, on pensait que l'Afrique était un continent sous-peuplé. Et en fait, l'Afrique est encore un continent sous-peuplé si l'on fait un calcul naïf, c'est-à-dire on prend la surface et on regarde la population et le nombre d'habitants par kilomètre carré. On arrive à des chiffres qui sont très raisonnables, mais on oublie qu'une partie, ce sont des déserts. L'autre partie, ce sont des forêts qui sont impropres à l'agriculture. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que des pays qui étaient sous-peuplés comme l'était la Côte d'Ivoire, par exemple, sont aujourd'hui pleins. et que la croissance démographique devient un véritable problème qui va se poser de façon prioritaire en termes d'emploi et en termes d'urbanisation.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas opéré la transition démographique qui s'est effectuée dans le reste du monde, ou dans certaines parties, et même dans quelques pays musulmans. Mais on a aussi le sentiment à vous lire, et vos chiffres qui nous étourdissent, que l'Afrique fait plus d'enfants encore aujourd'hui qu'hier, ou qu'en tout cas, ceux-ci vivent plus longtemps. Mais alors, comment expliquer cette croissance exponentielle?
Si vous Stephen prenez, Smith. Je poursuis le raisonnement de Serge Mikhailov, parce que historiquement, l'Afrique est un continent très particulier dans son histoire. Le moteur de l'histoire africaine, c'est la richesse en hommes, en êtres humains, donc wealth in people. Et nous, les Européens, pour nous, c'était la terre. La terre était le facteur productif. La terre était abondante en Afrique. Donc l'Afrique a longtemps vécu totalement sous-peuplée, ce qui est toujours à la fois une question de géographie, mais aussi de productivité. Et donc, quand vous pensez au début du XXe siècle, 150 millions de personnes sur un territoire qui est 60 fois grand comme la France, c'était véritablement un continent sous-peuplé. Et maintenant, la bascule se fait dans les années 1930, et à partir de là, vous avez une fulgurante croissance, et même pas le mot, explosion démographique, comme jamais auparavant, accompagnée d'une urbanisation également sans précédent. Et le continent trouve toute sa richesse, voire la surabondance, en ce qui faisait auparavant défaut. Aucun homme politique n'a osé, au moment des indépendances, parler de planning familial. Vous n'avez jamais eu une véritable campagne pour la planification. Je ne parle pas de coercition, je parle de planification, d'incitation à avoir moins d'enfants. C'était la recette la plus évidente pour faire advenir la prospérité. Diviser la richesse par le nombre des habitants.
Et ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas osé, justement.
Ils n'ont pas osé parce que la richesse était simple. Au moment de la souveraineté, enfin accéder à ce qui a fait le moteur de l'histoire, regardez toutes les sociétés lignagères en Afrique. Tout se joue sur combien d'alliés peut-on rassembler. C'est ça le moteur de l'histoire. Et les gens étaient fiers d'avoir les grandes familles, les réseaux étendus. Et de l'extérieur, par un complexe colonialiste, on n'a pas osé tenir un discours raisonnable à l'Afrique et à exhorter à un planning familial. Donc tous les progrès ont été noyés dans la masse humaine et on se trouve aujourd'hui dans une situation que, quand bien même la fécondité, ce qui est le cas dans certains centres urbains, baisse de façon considérable, pendant 2-3 générations, la pyramide des ne va pas bouger. Et quand on entre dans le détail, c'est très compliqué. Au sud du Nigeria, la fécondité baisse. Dans le nord musulman, elle augmente encore. Je ne crois pas que l'Afrique se soustrait au schéma universel de la transition démographique. Elle est amorcée, mais elle prendra encore 2-3 générations.
Vous dites quand même qu'elle est amorcée.
Elle est amorcée, oui. On passe de 6-7 enfants dans les plus grandes parties de l'Afrique à 5 enfants, 4, et dans les villes, les modes de vie changent. Mais c'est véritablement c'est le cliché du paquebot. Et pendant les 2-3 générations qui vont suivre, donc à l'horizon de 2050, c'est précisément toute cette masse humaine qui va continuer et qui va pousser en dehors du continent.
Quand vous regardez les courbes qui représentent ce qu'on appelle les taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants en moyenne par femme, et que vous comparez celle du Maghreb et celle de l'Afrique noire, celle du Maghreb, sur 40 ans, on est passé de taux de fécondité qui tournait autour de 7, 6,5, 7, à maintenant 2, 2,5. On est dans le cas de la Tunisie, un taux qui est très proche des taux européens. Et quand vous comparez à celle des pays du Sahel, eh bien, il n'y a même pas de courbe au niveau des pays du Sahel. Ou bien ce sont des lignes droites qui, pour certaines, le cas du Niger, sont légèrement montantes. Donc on a plutôt plus d'enfants qu'on en avait, il y a 40 ans. Alors, comme en plus on a une réduction très forte de la mortalité infantile, ce qui est une très bonne chose, mais on voit que le taux...
Et ça avait commencé
dans les années 30-40.
Oui, c'est ça.
Ça s'est accéléré à partir des années 50-60. Et aujourd'hui, on est encore très loin des taux de mortalité infantile qu'on trouve en Asie du Sud-Est ou qu'on trouve bien sûr en Europe. Là, les rapports sont de 20 à 10 à peu près. Donc il y a des gains potentiels très importants en matière de taux de mortalité infantile, ce qui fait que le taux de croissance de la population dans certains pays, le Niger en fait partie, augmente. Oui. Il est passé de 3,7, 3,8 à 4,1 aujourd'hui. Mmh. Il va augmenter jusqu'à 4,3 à peu près. Et ça, ce sont des phénomènes qui sont avec un degré d'inertie tel que il est extrêmement difficile d'envisager de les inverser. Alors, les responsables politiques, si vous voulez, je pense au Niger que je connais bien, en sont maintenant bien conscients. Encore que, je dirais, une partie des responsables politiques en est consciente. Je veux dire, j'ai été invité à assister à un débat en Conseil des ministres sur le problème de la démographie, où j'ai présenté au tableau les grandes courbes et les chiffres. Et la moitié du gouvernement ne connaissait pas les chiffres et est vraiment tombée de sa chaise en découvrant, je dirais, l'ampleur, à savoir que en 2050, quoi qu'on fasse, on aurait 60 millions d'habitants au Niger.
Vous dites dans votre livre, Serge Mikhaïlov, qu'il y a une vraie difficulté à changer les habitudes en Afrique. Vous parlez de la pratique de la polygamie, du statut inférieur des femmes, de la pratique des mariages très précoces. Et vous, Stephen Smith, vous citez le premier président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui disait que les pères des indépendances avaient autant d'emprise sur les masses qu'un big bœuf sur le dos d'un rhinocéros. Alors, est-ce que ces choses-là vont changer ou le poids des habitudes va l'emporter sur les politiques raisonnables de planning familial ? Stephen Smith.
Je pense que cette métaphore du pique-bœuf sur le dos d'un rhinocéros, ça montre bien la faiblesse du leadership. Et nous, les extérieurs à l'Afrique, nous avons une part de responsabilité. Nous acclamons avec les Africains, les Lumumba, les Nkrumah, et on a peu de considération finalement pour des hommes comme Houphouët-Boigny, mais les rares leaders de l'indépendance, les pères de l'indépendance, qui ont amené la population là où spontanément ils ne voulaient pas aller, par exemple dans une alliance post-coloniale avec la France, ça nous paraît évidemment trop sulfureux et on ne peut pas trouver ça bien. Mais en réalité, la plupart des pères de l'indépendance ont suivi le rhinocéros là où vous voulez de toute façon aller, chasser le colon, avoir beaucoup d'enfants, puisque c'est ça la richesse du continent. Tout le monde était content et aujourd'hui, nous constatons évidemment que c'était une recette désastre. Et je dois dire, pour être un peu critique, même Serge Mikhaïlov, qui connaît ces questions vraiment formidablement bien, mais que dans son livre, je trouve, quand il dit « Oui, il faudrait changer de discours, mais il faut respecter les traditions. » Oui, mais le respect des traditions, ça nous a amené là où nous en sommes. Il faudrait tenir un langage un peu plus brutal et dire que l'Asie s'en est sortie en remettant en question ces traditions. Ce n'est pas des vaches sacrées et ce discours n'a jamais été tenu.
Serge Mikhaïlov. D'abord, je veux dire, la remise en cause, je dirais, de ces questions en Asie, elle s'est faite dans le cadre de la Chine avec des mesures extrêmement coercitives à la politique de l'enfant unique. Et en Inde, il y a eu des dérapages terribles avec des stérilisations forcées, etc. Donc, si l'on lance les pays africains sur cette voie-là, je pense qu'il y aura du sang sur les murs. Je pense qu'il faut faire très attention d'abord pour nous-mêmes en tant qu'Occidentaux dans les recommandations que nous faisons en ce domaine. Comme vous le disiez vous-même, pour les Africains, la richesse, c'est d'abord le nombre d'hommes. Et moi, je perçois, en particulier dans l'Afrique sahélienne, les critiques que les Occidentaux font vis-à-vis de la démographie au Sahel sont très vite perçues comme un complot occidental pour affaiblir ces pays. Donc, il faut marcher quand même sur la pointe des pieds. Ceci dit, moi, je crois quand même que les principaux dirigeants des pays africains se rendent bien compte des problèmes. Il se trouve que j'ai eu quelques entretiens à ce sujet avec le président Ouattara il y a récemment. Et je sais que ça fait partie de ses préoccupations, parce qu'ils voient bien que même avec un taux de croissance économique tout à fait remarquable de l'ordre de 9 à 10%, il sait que les emplois ne suivent pas pour répondre aux aspirations des jeunes. Donc il a une préoccupation, et beaucoup de chefs d'État que je rencontre quand même encore assez régulièrement ont cette préoccupation-là. Alors effectivement, quelle est leur capacité d'intervention ? Est-ce que ce sont des pique-bœufs sur les dos des rhinocéros ? Effectivement, il y a un vrai problème dans la mesure où les institutions qui pourraient intervenir à ce niveau-là, je dirais, n'ont même plus l'efficacité qu'elles avaient il y a 30 ans. Elles ont perdu en efficacité, oui, tout à fait. Bon, il y a une dégradation, parce qu'elles se sont politisées. Ce sont devenus des institutions, si vous voulez, qui sont beaucoup plus clientélistes que fondée sur l'efficacité et la performance. Et donc, comme ces institutions ne répondent qu'imparfaitement, c'est quoi, si vous voulez, ces présidents ont des pédales, si vous voulez, qui ne répondent plus exactement comme elles pouvaient répondre il y a 30 ans, en tout cas comme elles pourraient répondre dans un pays développé, et automatiquement, leur capacité d'intervention est assez limitée.
Je voudrais abonder dans le même sens, puisque même au niveau des chiffres, quand j'ai essayé d'étayer mes raisonnements, j'ai trouvé que les chiffres d'il y a 30 ans étaient plus fiables qu'aujourd'hui. L'État failli, dont on parle tant en Afrique, le premier État failli, c'est l'État civil. On ne sait pas combien de citoyens naissent. Donc, on est totalement dans le vague. Et dès que je vois un chiffre avec une virgule, je sais que l'auteur est bien inconscient de ce que Serge Mikhaïlov soulignait, la perte de capacité institutionnelle. Nous sommes dans le vague et dans la politisation, et on n'a pas les instruments techniques pour véritablement opérer.
Oui, mais en plus... vous le dites, il y a une susceptibilité africaine sur ces questions-là et qui trouve des relais en Occident, parce que je me souviens qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, le président Macron avait dit on peut imaginer un autre destin pour la femme africaine que de faire 7 ou 8 enfants, et ça avait suscité de très nombreuses protestations, notamment en France, comme s'il s'agissait d'un discours néocolonial. Donc,
c'est un énoncé de fait, c'était la chose la plus franche à dire. Moi, je fais litière de ces susceptibilités qui sont des façons d'instrumentaliser un discours et pour s'exonérer. Et surtout auprès des leaders, je fais confiance à la population africaine de bien voir que lorsqu'on tient un certain discours, que ce n'est pas un discours de condescendance, mais que c'est un discours de bonne raison. Et je pense que cette prise de position du président Macron était tout à fait salutaire. Mais quand vous disiez, ou quand on disait, Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, ça fait encore débat aujourd'hui.
Oui, ça fait encore débat aujourd'hui.
Quand j'ai dit 2,5 milliards d'Africains et 70 millions de Français, cette disparité rend la phrase est banale, c'est un constat d'idée. Si c'est évidemment pour se dérober à une responsabilité d'aide, c'est condamnable, mais c'était pas le sens de c'est un énoncé de fait.
Avant d'en venir justement à cette ruée vers l'Europe, je voudrais qu'on parle encore de la situation en Afrique, parce que certains pays ont d'immenses richesses minières et gazières. Or, cela ne leur permet pas vraiment de décoller. Et vous parlez, par exemple, Stephen Smith, du Nigeria, qui dépense 10 milliards de dollars par an pour importer les vivres qu'il ne produit pas. Et vous dites « soil, not oil », la terre plutôt que le sous-sol, aurait dû être le mot d'ordre au Nigeria et dans d'autres pays producteur de pétrole. Autrement dit, finalement, ces richesses ont eu un effet contre-productif, en réalité.
Un double effet contre-productif, et ça nous ramène à René Dumont, avec l'Afrique noire et mal partie. Quand lui était agronome, il voyait très bien que toutes les rentes se sont retournées contre l'Afrique. C'est pas une fatalité. La Norvège tire de sa rente pétrolière le plus grand bénéfice pour sa population. Mais là où il y a des rentes, les rentes ont été soit confisqués par l'élite, ou ont finalement déplacé les populations vers des emplois où l'argent facile de ces rentes, et on a abandonné l'agriculture, la première responsabilité de se nourrir. Donc ces rentes ont été nocives, et j'ai bien peur que, et ça me fait la transition vers ces migrations, que nous sommes en train de créer la rente migratoire. L'aide publique au développement pendant la guerre froide a été une rente géopolitique pour avoir des alliés africains. On leur a donné de l'argent qui était pour le développement, mais qui était surtout pour avoir des alliances. On va leur donner maintenant une rente migratoire pour bien vouloir retenir leur population, dont nous ne voulons pas en Europe. Et je pense que cette rente aussi va être confisquée par les élites.
Serge Mikhaïlov.
Alors, si vous voulez, au niveau de ces matières premières, de cette richesse en matières premières, vous avez en fait une véritable malédiction des matières premières. Et là, je voudrais compléter un tout petit peu ce que vient de dire Stéphane. Savoir que vous avez d'abord des phénomènes qui sont liés à la corruption, parce que dès que vous avez des matières premières importantes, vous avez des négociations internationales entre les dirigeants et les grandes firmes multinationales qui vous amènent systématiquement à des phénomènes de corruption dramatiques, qui conduisent donc à une mauvaise gestion des économies. Vous avez un deuxième problème qui est une maladie économique qui est très, je dirais, très ancienne, puisque c'est une maladie économique qui a frappé l'Espagne à l'époque de Philippe V. À savoir, quand vous avez des rentes très importantes qui surviennent brutalement dans un pays, vous avez une distorsion d'économie qui s'appelle le syndrome hollandais, parce que ça n'a été diagnostiqué qu'à l'époque de l'arrivée de la production gazière en Hollande, qui vous produit une appréciation de votre taux de change effectif et qui conduit à un effondrement progressif de votre agriculture et de votre petite industrie. Et donc, dans ces conditions-là, si vous voulez, il est extrêmement difficile d'être à la fois compétitif sur le plan des matières premières et d'avoir une économie saine et dynamique créant des emplois. Comme en plus, ni le pétrole, ni les grandes mines ne créent des emplois, si vous voulez, cette richesse qui se traduit en taux de croissance artificielle au niveau des statistiques, qui sont souvent d'ailleurs gonflées, eh bien, ne crée pas des emplois, ne répond pas aux besoins des Africains.
Justement, cette crise agricole aussi en Afrique a conduit à une urbanisation qui, si je vous ai bien lu l'un et l'autre, a quelque chose de cauchemardesque. Ce sont des villes interminables, d'immenses mégalopoles avec des bidonvilles. Vous parlez de Lagos notamment, mais Lagos n'est pas la seule ville en cause. Et là encore, on est saisi d'effroi devant ce que vous décrivez l'un et l'autre, Stephen Smith.
Je ne voudrais pas désamorcer le propos parce que vous avez parfaitement raison. Simplement, comme un rappel historique, la grande ville du 19e siècle, celle de Dickens, Londres, avec 2,5 millions, ça paraissait énorme, était aussi effrayante et il y avait le Great Stink, la grande puanteur quand il n'y avait pas d'évacuation des eaux en 1854. Mais vous avez parfaitement raison. Quand moi, je suis né au milieu des années 50, Lagos comptait 350 000 habitants, et aujourd'hui nous sommes à plus de 20 millions. Et j'aime bien aussi citer les petites capitales africaines. Vous prenez N'Djamena, qui était un bourg avec 23 000 habitants au moment des indépendances, et qui compte aujourd'hui 1,3 million. Donc c'est fulgurant, parfois le coefficient multiplicateur est de 60. Et bien sûr, vous comparez avec New York ou Paris, c'est sans commune mesure. Et deux tiers de ces villes sont des bidonvilles. Et c'est là que s'installent les jeunes qui quittent les villages, à la fois en raison de la crise de l'agriculture, une agriculture de subsistance, mais aussi pour se soustraire à la tutelle, au nom du principe de seniorité, par rapport aux vieux, au village. Et donc ils partent, ils s'installent en ville, et on a un phénomène aujourd'hui, on dit souvent, l'urbanisation en Afrique est l'antichambre de la prospérité. Pas tout à fait, parce que malheureusement, les villes ne sont pas devenues des sites de production. Aujourd'hui, le revenu par tête habitant dans les villes est un tiers de ce qu'il était ailleurs, où c'était le début du décollage économique. Et donc, il faut faire attention de ne pas prendre les apparences. Ces gros villages, vraiment effroyables, les bidonvilles, qui ne sont pas véritablement des villes, qui ne produisent pas pour un début de décollage de l'Afrique.
Parce que les villes européennes, au 19e, se sont développées dans des contextes démographiques qui n'avaient rien à voir. On avait 0,5%, 1% de croissance démographique. En plus, on a 60 millions d'Européens qui sont partis à l'extérieur. Alors, je reprends les chiffres de Stéphane. Donc, nous n'avions pas une pression démographique dramatique. Et ensuite, nos agricultures étaient relativement performantes. Et d'ailleurs, on progressait tout au long du 19e siècle. Bon. Nous sommes en Afrique dans des conditions où l'agriculture, bon, progresse certes, mais progresse par une extension des surfaces et une consommation des surfaces et une consommation des terres agricoles beaucoup plus que par une intensification agricole satisfaisante. Et vous avez des taux de croissance démographique qui sont supérieurs à 3%. Ce qui fait que vous avez des croissances urbaines qui sont folles dans des contextes où vous n'avez pas de ressources financières pour créer les infrastructures qui sont nécessaires. Alors, ça devient assez dramatique parce qu'en plus, ces villes n'ont pratiquement pas de recettes fiscales. Et donc, vous avez effectivement une croissance de je dirais, ce qu'on appelle les secteurs informels, les quartiers informels, dans lesquels vous n'avez pas de réseau électrique, vous n'avez pas de réseau d'adduction d'eau, vous n'avez pas de réseau d'assainissement, et dans lesquels vous ne pouvez même pas en passer si vous avez des ressources, parce que tout est construit. Et dès que vous voulez passer des réseaux, il faut démolir, et pour démolir, il faut recaser les gens. Enfin, ça devient cauchemardesque. Alors, on sait comment, au niveau international, comment traiter ces questions, je dirais, au niveau d'un petit quartier. Mais au niveau de Lagos, on ne sait pas.
Il y a combien d'habitants à Lagos?
20, 22, personne ne sait. Si vous êtes Kinshasa, où je vais encore très souvent, j'allais très très souvent, personne ne sait. On sait que c'est entre 9 et 13. Bon.
9 et 13. Et... Bon, voilà. Lagos, c'est la plus grosse ville d'Afrique.
Lagos, je pense que c'est.
Oui, maintenant, elle a dépassé le Caire il y a peu.
Vous parlez d'infrastructure et ça me fait penser à la Chine. Elle investit énormément en Afrique pour créer notamment des infrastructures. Alors je voudrais savoir si selon vous son rôle est positif, va-t-elle pouvoir contribuer, la Chine, au décollage de l'Afrique, ou bien faut-il s'inquiéter de son emprise grandissante sur certains pays de ce continent? Stephen Smith.
On s'est entiché du rôle de la Chine en Afrique parce qu'on l'a découvert très tardivement. En réalité, la Chine ne fait que rattraper le retard qu'elle avait, géopolitiquement parlant, compte tenu de son poids aujourd'hui économique et démographique. Elle rattrape une position en Afrique, malheureusement selon les mêmes schémas des anciennes puissances présentes en Afrique. C'est-à-dire, c'est la collusion ou la connivence avec l'élite au pouvoir, c'est les investissements dans les infrastructures un peu négligés par les Occidentaux. Donc on fait plaisir aux élites au pouvoir et ça sert aussi à la population. On le fait dans des conditions qui sont plus effectives, plus efficaces souvent, peut-être plus hasardeuses pour l'environnement et ça fait plaisir. Mais finalement la Chine ne fait qu'à rattraper. Elle est aujourd'hui numéro un et c'est vrai que c'est fulgurant. Elle était 83e partenaire commercial à la fin des années 90, donc c'est vraiment fulgurant. Mais si vous additionnez les différents pays de l'Union européenne a toujours une position de leadership. Donc il y a un effet un peu optique qui joue oui. Et on s'est affolé sur la montée de la Chine. Il y a 1 million de Chinois en Afrique, on fait comme si c'était une colonisation. Je pense qu'aux États-Unis, il y a 10 ou 15 fois plus et on ne dit pas que les États-Unis sont colonisés.
Est-ce que vous pensez que c'est bon pour l'Afrique en tout cas?
Non, c'est la même chose que les autres, sauf que c'est fait avec une économie dirigiste et beaucoup plus politique où le politique commande beaucoup plus que le marché.
Les Chinois sont aujourd'hui des acteurs très importants en Afrique au plan économique. Alors effectivement, au début, ils ont financé des maisons du peuple, des palais des congrès qui vraiment n'avaient aucune utilité. Ils se sont mis ensuite dans les grandes infrastructures où ils ont un savoir-faire indéniable. Dans le cadre de contrats qui étaient souvent des gré à gré ou des conditions des négociations qui étaient très douteuses, dans lesquelles on échangeait un accès privilégié à des matières premières contre des travaux d'infrastructure dans les conditions d'une opacité étonnante. Bon, aujourd'hui, ils ont beaucoup appris de l'Afrique. Ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont très actifs en Afrique. Ils jouent un rôle à la fois au niveau du commerce et des infrastructures qui est très, très important. Moi, je relève une chose, c'est que ils sont les seuls à avoir en Afrique investi de façon significative dans ce que je dirais l'intégration de certains pays africains aux chaînes de la mondialisation internationale industrielle. Et je prends le cas de l'Éthiopie, où l'on a, et c'est vraiment le seul cas africain vraiment digne d'intérêt sur ce plan-là, mais qui est très important pour l'avenir, où l'on voit une sous-traitance africaine des industries chinoises, qui s'est développée depuis une dizaine d'années tout autour d'Addis Abeba, avec des créations d'emplois qui sont quand même très très intéressantes. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans la plupart des autres dans les autres pays africains et je pense que ça commence à faire réfléchir beaucoup de dirigeants africains parce que en termes d'emploi l'Afrique aujourd'hui a une industrie qui croît mais qui croît parallèlement à son produit intérieur brut qui ne vous n'avez pas les taux de croissance de l'ordre de 20-25% de l'industrie comme on a connu en Asie du Sud-Est. Vous avez des taux de l'ordre de 8 à 9. Et ce mode de développement industriel avec des capitaux chinois, et maintenant vous avez des capitaux turcs et des capitaux du Moyen-Orient, eh bien c'est quand même une perspective d'emploi très intéressante pour l'Afrique.
Je crois que ça restera un exemple unique, malheureusement, parce qu'il y a un encadrement autoritaire qui, d'ailleurs, montre des fissures aujourd'hui. Et d'autre part, donc, ça ne sera pas reproductible ailleurs. Et d'autre part, vous avez une singularité aussi de la main-d'œuvre éthiopienne. Donc, je pense que, malheureusement...
Pourquoi une singularité de la main-d'œuvre éthiopienne?
Parce que la trajectoire historique de l'Éthiopie, l'un des rares pays à ne pas avoir été colonisé, d'avoir eu une structure étatique précoloniale très importante et exceptionnelle. D'ailleurs, c'était un peu un contre-sens. Que le siège de l'Union africaine soit à Addis Abeba, où les gens vous expliquent dans la rue qu'ils ne se sentent pas africains.
Ah oui. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, la ruée dont vous parlez, Stephen Smith, elle est vers l'Europe, certainement pas vers la Chine. Si les jeunes Africains quittent leur continent, c'est pour le vieux continent. Vous dites que, sauf pour les Somaliens, les Sud-Sidanais ou les Érythréens, ces Africains ne fuient qu'exceptionnellement un danger de vie imminent, une répression systématique ou la famine. Le plus souvent, ils sont à la poursuite d'une meilleure vie pour eux-mêmes et leurs enfants. Et vous faites voler en éclats une de nos certitudes les plus ancrées. Parce que vous dites, Stephen Smith, qu'avec l'aide au développement, dont on pensait que c'était justement le moyen de fixer les Africains chez eux, et qui est souvent invoqué, ben, les pays riches se tirent une balle dans le pied. Ils versent une prime à la migration en aidant les pays pauvres à atteindre le seuil de prospérité à partir duquel leurs habitants disposent des moyens pour partir et s'installer ailleurs. Autrement dit, le co-développement vise à retenir les pauvres chez eux et ils financent leur déracinement en les sortant de la pauvreté, parce que les plus pauvres, eux, ne bougent pas, mais ceux qui atteignent un certain niveau de vie, qui sortent de la grande pauvreté, eh bien voilà, ils ont des téléphones portables, des ordinateurs, ils voient ce qui se passe en Europe et ils y vont. Et donc on a l'impression aussi que finalement les grandes villes africaines, c'est pas l'antichambre de la prospérité, c'est l'antichambre de l'Europe.
Tout à fait. Ce qu'il convient de comprendre, c'est que on a longtemps pensé, et dans les clichés médiatiques, c'est toujours présent, que c'est les pauvres les plus désespérés qui se lancent sur la route et qui vont venir ici. Et contrairement à ce qu'on dit avec une balkanisation d'esprit qui m'échappe un tout petit peu, on parle tout le temps de l'Afrique émergente, de l'Afrique qui gagne, etc. Et en même temps, on décrit les migrants comme échappant à un enfer. Si c'était un enfer, je ne sais pas pourquoi Serge Mikhaïlov, moi-même, nous allons depuis 40 ans en Afrique. Ce n'est pas un enfer et surtout pas à l'échelle du continent. Donc il est important de comprendre que ce n'est pas sous Mobutu ou sous Bokassa au moment de la plus grande pauvreté que l'Afrique massivement s'est mise à migrer. Non, comme toutes les autres parties du monde, les gens sortent la tête de l'eau, passent un premier seuil de prospérité, ont une connaissance du monde, parce qu'on ne sort pas du village en s'imaginant d'aller à Paris, à Londres ou à New York ou à Beijing s'il le faut. Il faut avoir une certaine vista et d'autre part, il faut avoir un pactole de départ, c'est important. Il faut avoir 2 000-3 000 euros pour se lancer. Parfois, le voyage prend quand même une année et troisième condition que je souligne également, il faut des communautés diasporiques, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas des communautés africaines ailleurs, qui sont justement une cellule d'accueil, qui peuvent mettre le pied à l'étrier du migrant et aussi lui l'aider son orientation. Ces trois conditions doivent être réunies, elles le sont aujourd'hui. L'Afrique n'est pas encore aussi prospère qu'on le dit, donc je pense qu'on est sur le seuil, puisqu'après tout, 20 millions de New-Yorkais consomment autant d'électricité que l'Afrique subsaharienne. Donc il faut mettre les choses en proportion. Mais l'Afrique est sur le point de passer ce seuil à une classe moyenne aujourd'hui de près de 200 millions d'habitants et elle va exercer sa pression migratoire sur l'Europe.
Alors, Serge Mikhaïlov. Monsieur Fidigalco, vous avez mis le doigt sur le seul point sur lequel j'ai des accords avec Stéphane.
J'ai bien fait.
Tout à fait. Je crois qu'il a des raccourcis un peu rapides parce qu'effectivement, vu de loin, il a raison. Hein. Je veux dire, effectivement, ce ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres qui viennent en Europe parce qu'effectivement, il faut une mise de fonds minimale. Ceci dit, il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent à ce niveau-là. D'abord, vous avez des traditions régionales. Je pense par exemple à la région de Kaï au Mali, de migration, avec une diaspora bien structurée, bien organisée à l'autre bout, qui fait office véritablement d'aspirateur. Donc là, vous avez des régions qui véritablement se dépeuplent parce que vous avez un aspirateur d'un côté et puis vous avez une situation tout à fait insatisfaisante. Ensuite, vous avez des régions où les villages, où les familles en tout cas, se cotisent pour payer le voyage aux migrants. Ce qui fait d'ailleurs que le migrant est obligé de prendre tous les risques parce que il doit à toute cette famille pouvoir rembourser, renvoyer cela. Il ne peut pas rentrer chez lui ayant échoué à traverser le Sahara et la Méditerranée. Enfin, vous avez maintenant le phénomène du téléphone portable, des communications qui font que notre vie occidentale est maintenant perçue par tous ces jeunes qui sont coincés par à la fois la misère, l'absence d'emploi, le fait qu'au village, ils sont toujours sous la tutelle des anciens, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'argent qui leur permettrait de payer la dot et d'avoir une femme, parce que les vieux polygames riches, je dirais, font monter le prix des dots. Et donc, vous avez toute une série de phénomènes qui font que cette migration qu'on qualifie de migration économique, eh bien, elle a tendance à s'accélérer. Aujourd'hui, quand vous avez un économiste comme Jean-Marie Cour qui a fait quelques travaux là-dessus et qui a calculé que le revenu par habitant entre le Mali et la France, par exemple, si on fait un rapport en termes de parité de pouvoir d'achat, il est de l'ordre de 47-48, mais il est de 78 en termes de devises effectives. Donc, quand vous avez un rapport de 1 à 70 ou 78, l'attirance est terrible. Alors, il y a une autre dimension aussi, c'est les migrations qui sont liées non plus aux questions économiques, mais qui sont liées cette fois-ci au problème de désorganisation des économies, des guerres, des conflits, des massacres. Or, la démographie risque d'avoir un impact sur la sécurité. On le voit déjà au Sahel aujourd'hui. On va le voir en République démocratique du Congo dans quelques ans. On commence déjà à le sentir, mais ça risque de devenir dramatique si les choses se passent mal. Donc, on voit que la désorganisation de certaines sociétés va créer des malheureux et des gens qui sont dans des situations d'insécurité telles qu'ils vont fuir dans les grandes villes. Là, ils n'auront pas de possibilité d'emploi. Ils vont aller au Maghreb, ils seront mal accueillis. Ils vont essayer en Chine, ils seront très mal accueillis.
Oui,
et finalement, l'Europe, avec son système social qui va casser si on ouvre les portes, comme le dit Stéphane, eh bien, l'Europe, évidemment, a un pouvoir d'attraction considérable.
Alors, l'Europe a un pouvoir d'attraction considérable, mais, comme le disait en effet Michel Rocard, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On voit tous les problèmes aujourd'hui, les difficultés d'intégration. Il y a quelque chose de particulier et même de paradoxal, parce que l'Europe devient une terre d'immigration malgré elle, mais c'est pas tout à fait comme l'Amérique, une terre promise, puisque, certes, les Africains qui viennent sont attirés par cet Eldorado, par toutes les possibilités que l'Europe offre, mais vous citez Stephen Smith, Haroun Apadurai, qui est né en Inde mais a fait carrière aux États-Unis, et il dit « Comment se fait-il que tant de gens nous haïssent précisément pour ce qu'ils veulent si désespérément et cherchent à obtenir, en forçant nos frontières, en obtenant nos visas, en prenant l'avion ou leur voiture, s'ils n'atteignent pas nos rivages à la voile ou à la nage ? Pourquoi dépenser tant d'énergie pour atteindre un pays qu'on méprise ?» Et ça, c'est quand même une question, parce que c'est aussi de là que viennent un certain nombre de difficultés d'intégration dont vous parliez dans un livre précédent, pour lequel d'ailleurs je vous avais invité, Stephen Smith, un livre que vous avez écrit avec Géraldine Faes, « Noir et français ». Comment expliquer ce paradoxe ?
Oui, d'abord, comme soulignait Serge Mikhailov, la moitié des dépenses pour la sécurité sociale dans le monde sont réunies par les Européens. Et les Européens, aujourd'hui, c'est 5% de la population. Donc là, vous voyez vraiment l'Europe qui attire irrésistiblement. Il y attire aussi par autosélection un certain type de subsahariens. Moi, je vois des Africains aux États-Unis qui sont très différents. Non pas parce qu'ils sont d'autres Africains, mais parce qu'ils viennent dans un monde où ils savent que s'ils ne font pas un effort, ils vont couler. Et donc, j'ai découvert des Africains d'un dynamisme que je ne connaissais pas en Europe. Et ça paraît évidemment un peu choquant de le dire, mais c'est un fait. C'est une expérience que j'ai vécue. Maintenant, vous
signez... Donc en Europe, ils viennent plus pour l'aide sociale, en quelque sorte.
Ils savent que en cas de chute, il y a un filet. Et ça change tout, bien sûr. Comme nous-mêmes, d'ailleurs, c'est pas une réaction africaine, c'est une réaction aussi d'Européens. Et il s'y ajoute le fait postcolonial. Et le fait postcolonial, à ce niveau-là, c'est toute cette élite africaine qui essaye d'expliquer comment elle se trouve derrière la ligne des ennemis, tout en travaillant pour les populations à libérer. Et donc, vous avez un problème de postcolonialité parce qu'en réalité, les Européens ne devraient pas avoir peur des migrants africains puisque ce sont les volontaires au progrès. Et si je voulais aller au bout de ma pensée, on pourrait dire, assez cyniquement et dans le langage du 19e siècle de la colonisation, nous faisons face à l'afflux de personnes qui sont volontaires à la mission civilisatrice.
Est-ce qu'ils le sont vraiment ?
Oui, je pense très largement, mais ça induit...
Mais c'est pas tout à fait ce que dit votre livre.
Non, parce que ça induit une fêlure ontologique, puisque vous êtes obligé de dire que vous venez d'une société en panne et que vous allez vers une société qui marche, mais qui est la société qui a colonisé votre pays. Et vous voyez ce schisme dans tout ce que j'ai lu sur la migration chez les écrivains africains. C'est toujours l'échec, c'est jamais bien, c'est la déportation, l'expulsion. Et en réalité, ce sont eux qui ont réussi et décrivent l'échec de ceux qui vont arriver. Et c'est cette difficulté d'assumer une volonté de progresser et de vivre à l'occidental, tout en conciliant ça avec l'africanité qui continue à poser problème en termes d'intégration.
Serge Mikhailov.
Mon inquiétude vient de ce que nous avons une immigration africaine qui vient de cultures qui sont très différentes de notre culture. On a eu pendant longtemps des immigrations italiennes, espagnoles, portugaises, polonaise, russe, j'en suis l'exemple, mon père était russe. Et je veux dire, il y avait une volonté d'intégration qui était complète. Par exemple, moi j'avais demandé à mon père de m'apprendre le russe, il a refusé, en me disant, il n'est pas question, tu dois être français. Pourquoi veux-tu apprendre le russe? Bon, il a refusé, tout net, ce qui fait que je ne parle pas russe et je suis
français. C'est pareil pour moi. Bon, mes parents n'ont pas voulu m'apprendre pas voulu, le polonais.
Bon, voyez. Donc il y avait une volonté d'intégration que l'on retrouve difficilement, si vous voulez, dans des cultures qui sont beaucoup plus éloignées de notre culture, avec la création de la diaspora, dans lequel la volonté d'assimilation et d'intégration est beaucoup plus restreinte, beaucoup plus réduite. Donc, si vous voulez, cette intégration se fait mal parce que ni l'école, ni surtout l'emploi ne le facilite.
Oui.
Vous avez, au niveau de la deuxième génération, une espèce d'amertume vis-à-vis de ce pays que vous n'avez pas cherché. C'est pas vous qui avez décidé de venir comme les migrants de première génération. Vous êtes là comme ça. Et puis, ce pays, en même temps, vous rejette, ne vous permet pas d'avoir l'emploi auquel vous aspirez. Et ça, je dirais, même à tout niveau. Je me souviens de mon ami Tidiane Thiam, qui est aujourd'hui le président du Crédit Suisse en Suisse. Eh bien, Tidiane, il est parti travailler à Londres, où il était le directeur général de Prudential, et ensuite en Suisse, où il est maintenant le président du Crédit Suisse, parce qu'il considérait que, en tant qu'Ivoirien, en France, il n'accéderait jamais à la présidence d'un groupe du CAC 40. Donc, on voit bien que vous avez quand même des barrières de verre qui font que il y a des raisons objectives qui font que la deuxième génération d'immigrés, eh bien, ne se sent pas à l'aise et se sent souvent rejeté.
Deux petites remarques. La première, c'est que les médias aujourd'hui, qui permettent de vivre dans une bulle, contribuent beaucoup à cela. Auparavant, on coupait, les 43 millions d'Européens qui sont partis aux États-Unis coupaient avec l'Europe. Et donc, il fallait s'adapter à l'Amérique. Ça, c'est un premier point. Vous pouvez vivre dans cette bulle. Vous êtes en France et en réalité, mentalement, vous n'y êtes pas. Et d'autre part, nous y contribuons parce que l'histoire du migrant, on l'arrête au moment où il touche la terre européenne, comme si c'était le bonheur. Moi, je rapporte des conversations où des migrants me disent « on se sacrifie pour nos enfants, bien sûr, on gagne mieux notre vie ici qu'au pays ». Mais est-ce qu'on vit? Et ce côté, la migration est une histoire qui continue, qui n'est pas terminée quand on arrive au paradis européen, c'est important de le penser jusqu'au bout. D'où le phénomène que, en effet, la seconde génération se dit « je suis arrivé ici par un concours de circonstances, c'est pas mon pays » et on revendique une origine qui ne correspond à aucun vécu.
Mais ils n'ont pas envie de revenir dans leur pays non plus. Donc c'est une situation quand même assez curieuse, ou peut-être y a-t-il une part de mauvaise foi, mais alors je voudrais mettre en regard deux citations, Stephen Smith. D'abord, dans La ruée vers l'Europe, vous parlez de ce qu'a écrit le correspondant en Afrique du Washington Post en 1997. Il s'appelle Keith Richburg. Il a fait scandale en se félicitant de la déportation de ses aïeux africains vers le Nouveau Monde, où malgré tout il avait pu réussir. Et il est allé assez loin dans la provocation, puisqu'il s'est demandé en quel temps record un navire négrier dans un port ouest-africain se remplirait de volontaires au départ. Moins de 20 ans plus tard, des Africains, ça c'est vous qui commentez, s'entassent dans de frêles esquives pour franchir la Méditerranée à leurs risques et périls. Mais vous citiez dans Noir et Français Achille Mbembe, qui disait ceci, qui parlait de l'extension aux citoyens français non blancs, des ignobles traitements infligés autrefois aux sujets coloniaux, et de nos jours aux migrants, aux réfugiés, à ce que l'on nomme simplement les étrangers. En réalité, cela fait plus d'un quart de siècle que la banlieue a été transformée en nouvelle colonie pénale. La loi d'exception s'exerce désormais ici sur des citoyens internés depuis longtemps déjà. 40 milliards ont été dépensés, même plus, pour la rénovation urbaine. Il y a plus de mosquées aujourd'hui en Seine-Saint-Denis que d'églises ou de lieux de culte catholique. On peut pas dire que la France ne fait rien. Mais c'est cette combinaison, encore une fois, d'attrait, on y va, comme le dit Keith Richburg, et par tous les moyens, et en même temps de ressentiment, et même de répulsion, que je trouve extrêmement problématique. Est-ce que le renouveau religieux qu'on voit en Afrique, puisque vous dites même que la fracture religieuse peut l'emporter sur la fracture ethnique, a à voir avec ce sentiment? Ou bien est-ce que c'est tout autre chose? Parce que l'islamisme a fait des progrès en Afrique aussi.
Vous me mettez en difficulté, Stephen parce Smith. Que les deux, Keith Richburg, qui était d'ailleurs aussi correspondant du Washington Post à Paris, et Achille Mbembe sont des amis. Mais je pense que Achille est emblématique pour une élite qui essaie d'expliquer l'inexplicable et de surmonter une déchirure dont j'ai parlé précédemment et qui empêche beaucoup cette intégration, aussi du fait, comme on l'a souligné tout à l'heure, que que le migrant qui vit en Europe et qui est en fait exploité par les siens au pays, qui renvoie une bonne partie de ses ressources au pays, est privé de moyens pour s'intégrer proprement puisqu'il renvoie ses moyens au pays. Donc je pense que Keith Richbrook a fait très fort dans la provocation, mais il a souligné quelque chose qui méritait d'être dit. Maintenant, la fracture religieuse, je ne crois pas. La religion, très souvent, est un véhicule pour une métamorphose politique. Et le néo-protestantisme, le fait qu'on dise que la réussite sociale, aussi pécuniaire, est une expression de la grâce divine, a permis à beaucoup d'Africains de se soustraire à ces obligations de réciprocité qu'ils ne pouvaient plus remplir, et surtout aux femmes de se libérer. Et donc le néo-protestantisme est arrivé dans le dos des Français dans les cités. Tout le monde a regardé l'islam, n'a pas vu qu'aujourd'hui les églises charismatiques sont aussi présentes dans les banlieues et dans les cités que l'islam, et que finalement c'est une façon, une nouvelle subjectivisation de nouveaux sujets éclos et sont plus sous la tutelle des pères et des frères. Et c'est finalement une forme de progrès qui passe par la médiation religieuse.
Alors, dans ce phénomène migratoire, il ne faut pas oublier quand même la dimension développement économique. Moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir le retour en Afrique des élites africaines qui ont été formées aux États-Unis, en France, dans les pays occidentaux. Ils reviennent. Parce que vous avez, depuis l'an 2000, à peu près depuis une quinzaine d'années, vous avez quand même une croissance économique importante. Vous avez des développements d'entreprises significatifs qui ont besoin de cadres de valeurs. Et moi, je suis quand même frappé de voir ce retour au pays de jeunes qui sortent avec des MBA, avec des diplômes d'ingénieurs, etc. Alors, si l'Afrique véritablement se met sur le chemin d'un développement durable et pacifié, ce qui est parfaitement possible, et ça va jouer dans les 4 à 5 ans qui viennent en ce qui concerne l'Afrique occidentale, je dirais, je serais beaucoup moins inquiet sur les phénomènes migratoires que les chiffres ne le donnent.
Je suis en désaccord avec ça. Je ne conteste pas les faits. Il y a des individus qui reviennent, mais pas si vous regardez l'ensemble des diplômés africains. Vous voyez que la grande majorité reste et va ailleurs. Et je peux les comprendre, puisque la vie quotidienne dans les pays où les choses ne marchent pas droit est trop pénible pour la subir. Et donc, je pense que comme l'Inde, comme la Turquie, l'Afrique doit encore franchir un seuil dans sa capacité institutionnelle et dans sa prospérité pour que ces élites reviennent durablement chez elles.
Donc, si je vous suis bien, Stephen Smith, cette migration massive pénalise l'Afrique autant qu'elle pénalise l'Europe. Les Africains doivent pouvoir s'intégrer à l'Europe, bien sûr, mais l'Europe n'a pas vocation à devenir africaine. Donc, sans doute faut-il maîtriser les flux migratoires pour le bien des deux continents. Et si vous dites que l'aide au développement ne produit pas les effets escomptés, mais les effets inverses, alors que faut-il faire? Quelle politique faut-il suivre?
Mais je crois que la logique des faits, c'est que l'Europe va s'africaniser.
Ah bon?
Et comme, oui, tout à fait, quand vous regardez cinq fois la population africaine par rapport à l'Europe, dans une génération, et deux Africains jeunes face à un Européen autour de la cinquantaine. Ce qui va se produire dans des proportions que je ne connais pas avec exactitude, puisque ça dépendra des conditions, mais l'Europe va s'africaniser, et de la même façon que l'Europe avait, à un moment donné, un oncle d'Amérique, Chaque famille africaine aura d'ici une ou deux générations un neveu ou une nièce d'Europe. Et c'est inscrit dans les faits. Quelle que soit la politique, forteresse européenne, volonté de créer ces hotspots, tout cela n'est pas à la mesure de la pression migratoire. On va changer un peu les modalités, mais on n'en changera pas la donne.
Mais est-ce que c'est bon pour l'Europe, Stephen Smith?
Londres aujourd'hui, Londres était il y a trois générations, les Londoniens à 90% étaient des Britanniques, de parents eux-mêmes britanniques. Aujourd'hui, la moitié sont des migrants, des immigrés de première ou de deuxième génération. Londres a un problème avec le reste de la Grande-Bretagne, mais est un pays, une ville cosmopolite qui attire beaucoup de gens. Je veux dire par là qu'il ne faut pas penser, l'Amérique est aussi, a toujours une identité et était très largement européanisée. Ça se fera dans la douleur, dans les conflits, mais ce n'est pas forcément une histoire tragique.
Je veux dire que ça m'inquiète, si vous voulez, ces phénomènes migratoires, quand on raisonne sur le long terme, de par les réactions politiques que ça risque de provoquer au niveau des partis populistes et d'extrême droite. Donc c'est un phénomène qui risque de conduire à des crispations. D'ailleurs, Stéphane, vous expliquez très clairement dans votre livre le vote du Brexit par une espèce de rejet, cette fois-ci non pas d'immigration africaine, mais je dirais des gens du Commonwealth qui ont largement refusé l'arrivée des Polonais. C'est vrai qu'un million de Polonais en quelques années arrivant dans un pays, ça provoque des votes aussi absurdes, aussi fous que le Brexit. Donc cette dimension-là est importante. Moi, je crois quand même que les perspectives de développement économique qui sont pas du tout exclu dans les années à venir. On peut avoir des taux de croissance à deux chiffres dans certains pays africains qui vous changent complètement la donne. Moi, je crois que là, on ne peut pas raisonner au niveau de l'Afrique globalement. Il faut raisonner par bassin. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Cameroun, je veux dire, ces pays-là bien gérés, lancés sur une voie de type brésilien, peuvent au contraire faire revenir les jeunes dans leur pays et nous donner des perspectives. Et là, je suis en désaccord sur les problèmes de l'aide au développement, parce que cette aide au développement peut financer les infrastructures qui, en particulier, vont faire de ces villes des endroits où on peut quand même vivre et vont permettre de faire de ces campagnes des lieux de production. Donc, c'est pas que ça résout tous les problèmes, mais ça contribue au problème.
Alors, une dernière question. Vous parlez des partis populistes, mais après tout, je ne vois pas pourquoi la volonté d'une civilisation de persévérer dans son être serait l'apanage des populistes. C'est-à-dire que vous dites l'Europe va s'africaniser, Stephen Smith. Est-ce que ça voudra dire qu'elle va subir une métamorphose profonde, qu'elle ne sera plus la même?
Nous ne sommes jamais les mêmes. Donc, l'identité va changer. Et je pense que ça se négocie parce que la frontière, pour moi, est un espace de négociation. C'est pas la barrière fermée ou ouverte. On n'est pas dans le bien ou le mal. On est dans les politiques d'immigration. Pour moi, je le dis tout au long de mon livre, il ne faut pas faire les comptes sans les autres. C'est-à-dire, les nationaux décident. C'est pas une question ethnique. C'est une question de contrat de citoyenneté. Et on verra combien l'Europe peut peser lorsqu'elle représente 5% de la population mondiale face à une pression migratoire tellement forte. Ça va se jouer dans un rapport de force et un rapport à la réalité.
Il faut toujours se méfier un peu des prédictions apocalyptiques. Je pense à Gunnar Myrdal, qui était un prix Nobel d'économie, qui dans les années 50 disait que la Chine et l'Inde se déverseraient sur l'Europe et que les Chinois mangeraient de l'herbe des fossés. Je veux dire, à ces échelles-là, tant d'événements peuvent survenir que, bon, il faut être un peu modeste. Mais c'est vrai que le poids des chiffres est quand même angoissant.
Eh oui. Absolument. Merci en tout cas, Stephen Smith et Serge Mikhaïlov. Je rappelle les titres de vos livres. Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. La jeune Afrique en route pour le vieux continent. Le livre est édité chez Grasset. Vous avez publié il y a quelques années Noir et français aux éditions Panama avec Géraldine Faes. Serge Mikhaïlov, Afrikanistan. L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Le livre est publié aux éditions Fayard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre PMA-GPA, les nouveaux enjeux de la bioéthique. Mes invités seront Laurence Brunet et Marianne Durano. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Cédric Chatelus. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.